Nous aimons prier, nous aimons être ensemble, nous aimons être à l'écoute de la parole de Dieu et j'aimerais méditer avec vous ce matin le texte qui est annoncé sur l'écran et j'aimerais vous demander d'ouvrir votre Bible dans l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Voici ce qui est écrit dans ce livre. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Le thème de mon message ce matin, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même si vous ne retenez rien de ce message, retenez ça. C'est la Bible. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est une grande vérité, une grande sagesse. Voici le plan que j'aimerais voir avec vous au travers de cette petite méditation, ce texte. Après avoir donné quelques introductions, quelques pensées sur le livre de l'Ecclésiaste, nous allons voir que Dieu est en contrôle de la marche du monde. La pensée de l'éternité change ma perspective. Dieu est en contrôle de chaque chose qui arrive en son temps. Et puis, Dieu contrôle aussi les saisons de ma vie, car dans la vie, il y a des saisons. Je ne sais pas si vous avez ouvert le livre de l'Ecclésiaste récemment, mais le livre de l'Ecclésiaste est un livre où quelqu'un, il semblerait que ce soit Salomon, tous les commentateurs ne sont pas d'accord là-dessus, mais toutefois, c'est un livre de quelqu'un qui avait beaucoup de possibilités dans la vie, un homme richissime, il a connu la gloire, il a connu toutes choses finalement, il avait accès à tout, et il va dire « Mon expérience et mon observation de la vie, après tout ce que j'ai vu, vécu, reçu, expérimenté, ma conclusion, tout est vanité. » D'ailleurs, le livre commence avec ces mots-là, « vanité des vanités ». Donc tout ça, ce n'est pas très encourageant jusqu'à présent. Cela veut dire que même si on a tout, même si on a accès à tout, le cœur peut rester désespérément vide. Et c'est notre expérience à beaucoup, où le cœur, malgré tout ce que le monde offre et l'endroit où nous habitons, il faut le dire, fait partie des endroits du monde où on offre beaucoup de choses. Et beaucoup de choses sont à notre disposition, mais le cœur reste malgré tout cela vide. Et si vous lisez l'Ecclésiaste, vous pourrez vous demander, mais c'est un peu pessimiste tout cela, c'est un peu fataliste, parce qu'il y a quelque part un manque de sens à la vie. L'homme a tout, peut jouir de beaucoup de choses, mais sans Dieu dans sa vie, son cœur reste désespérément vide. Car nous sommes faits pour que la case Dieu soit remplie par sa présence. Nous sommes faits pour que Dieu fasse partie de notre vie. Alors, les choses commencent à tomber à leur place. Il y a un mot qui revient souvent dans le livre d'Ecclésiaste, et il revient en fait 27 fois. C'est un mot qui est un petit mot de répétition qui nous montre d'où vient la vanité des vanités, d'où vient cet état de fait un peu pessimiste. Eh bien, c'est le petit mot « sous le soleil ». Sous le soleil. Sous le soleil, eh bien, nous sommes tous sous le soleil. La vie tourne, les choses se répètent, le temps passe, et on se demande à quoi ça sert tout ça, sous le soleil. Vous pouvez lire ce texte de nombreuses fois, mais cela veut dire, si nous restons simplement dans l'observation des choses qui se passent dans le monde visible et matériel, tout ce qui se passe sous le soleil, dans le monde physique dans lequel nous sommes, eh bien, vous avez beaucoup de chances de ne pas trouver de sens à votre vie, que la vie, finalement, est une roue qui tourne, les choses viennent, les choses arrivent, les choses passent, les autres choses recommencent derrière, etc. Et sous le soleil, il n'y a pas beaucoup de perspectives. Même si la vie offre tellement de choses, définitivement, l'Ecclésiaste a raison de dire, sous le soleil, si vous restez que sous le soleil, si votre perspective, votre vision ne reste que fixée et figée sous le soleil, vous allez arriver à la même conclusion. Donc tout ce que l'homme entreprend sans mettre Dieu dans ses projets peut fonctionner un certain temps, mais laisse le cœur vide. Donc l'auteur va parler de beaucoup de sujets, les uns après les autres, dans un ordre un peu disparate. Il va toucher les thèmes les uns, les autres, un peu comme vont les pensées, d'une manière parfois un peu désordonnée. Il les énumère. Puis de temps en temps, il s'arrête. Et il dit, mais, ah oui, quand même, si Dieu est dans de la partie, si Dieu est avec moi, si Dieu est dans mon plan, si je demande l'avis de Dieu, si Dieu est en communion avec moi et moi je suis en communion avec lui, alors les choses peuvent se poser. Et au lieu de trouver la vie vide de sens, au lieu de trouver une vie où il manque toujours quelque chose, tout à coup il se pose sur le rocher de la foi en Dieu. Et c'est là que sortent ces paroles extraordinaires, dont celle que nous avons lue, Ecclésiaste 3, verset 11. Tout à coup, lorsqu'il se pose, lorsqu'il s'arrête, et lorsqu'il pense à Dieu, et lorsqu'il peut-être se souvient de la communion qu'il a connue autrefois avec le Seigneur, et qui maintenant peut-être affaiblit dans sa vie, il dit « Toutes choses vont bien se terminer avec le Seigneur qui dirige toutes choses. » Dans le chapitre 3, vous avez ces célèbres paroles qui commencent ainsi « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous le ciel, sous le soleil, c'est toujours la même observation. Dans le monde matériel, dans le monde physique, eh bien, il se passe des choses. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, pour arracher, tuer, guérir, démolir, bâtir, pleurer, rire. Et vous voyez tous ces contrastes de construction, de déconstruction, de bonheur, de malheur, de souffrance et de joie. Et vous avez les injustices, et puis vous avez les choses qui sont bonnes, le bonheur qui côtoie le malheur, etc. Et on a l'impression que le monde est propulsé dans une trajectoire où il ne sait pas trop où il va. Les choses bien et mal, mauvaises, bonnes, se côtoient, se succèdent, et on ne sait pas à quoi ça sert tout ça. Ça rime à quoi? Ça nous amène où? Et on a l'impression que le monde est sans gouvernail, livré à lui-même, comme un avion qui n'a plus de pilote ou comme un bateau qui est en route sans savoir où il va. C'est sous le soleil. Mais le texte d'aujourd'hui et notre vie le confirme, que nous voulons nous placer au-dessus du soleil, dans une autre dimension, dans une autre perspective, et au-dessus du soleil dans le monde spirituel, dans le monde réel, spirituel, et dans le monde connecté à Dieu, nous sommes bien au-dessus du soleil, de ce monde matériel. Nous sommes accrochés, notre ancre est lancée dans les cieux, et nous sommes accrochés à des vérités fortes, solides, à une communion qui ne trompe pas. Et là, il y a le Dieu bienveillant. Un Dieu d'amour qui se mêle de l'histoire humaine, qui prend part, qui dirige l'histoire par sa main invisible. Et il a toujours son plan. Et son plan, même si nous ne le comprenons pas, est toujours dans la direction suivante. Il a une intention de salut. Dieu veut sauver. Dieu désire et fera tout et conduira le monde pour que le maximum de personnes puissent être sauvées et puissent passer de leur régime sous le soleil dans la perspective au-dessus du soleil. Le cours de l'histoire est comme un cours d'eau qui est pourtant orienté par sa main. Le proverbe nous le dit aussi. L'image suivante nous montre quelques textes. Que Dieu est en contrôle de la marche du monde. Dieu est en contrôle de la marche du monde. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, ça? Dieu est en contrôle de la marche du monde. Et même si les nouvelles, on a l'impression que le monde est un bateau qui a perdu son pilote et que tout est en désordre croissant. Et pourtant, nous affirmons Bible en main, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et surtout de l'Apocalypse qui nous montre qu'il y a un accomplissement qui viendra en son temps, en son temps. Et que Dieu est et restera bel et bien en contrôle de la marche du monde. Oui, si le psaume 29 nous dit que même au plus grand cataclysme que le monde ait jamais connu, le déluge, eh bien Dieu était assis sur son trône. Et il est sur son trône lorsque la terre est dans le chaos, lorsque sous le soleil c'est le chaos, le désespoir et la souffrance. Dieu est sur son trône et il règne éternellement. Et on peut dire amen à cela. Les projets de Dieu subsistent de génération en génération. Même si vous avez l'impression que les projets de Dieu tardent, ils ne s'accomplissent pas, ils ne prennent pas forme, je ne vois rien arriver. Et même si nous devons un jour quitter cette terre sans avoir vu certains projets s'accomplir, eh bien, parce que nous sommes connectés au-dessus du soleil, par la foi, notre ancre est lancée sur le trône de Dieu, il est ancré dans le ciel, et nous sommes attachés à ces vérités qui ne nous lâchent pas et que nous ne lâchons pas, que Dieu règne et que ses projets subsistent de génération en génération. Et ce qu'une génération n'a pas pu accomplir, la suivante va entrer dedans. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas, comme l'Ecclésiaste, pessimistes et fatalistes en disant simplement « voilà ce qu'on observe, la roue tourne et c'est vanité des vanités, ça sert à quoi ?» Nous sommes des acteurs de l'histoire, frères et sœurs. Le Nouveau Testament, l'Ecclésiaste ne dit pas tout cela, mais le Nouveau Testament nous précise que nous ne sommes pas simplement des sujets soumis à tout ce qui se passe sous le soleil, même si nous le sommes en partie matériellement et physiquement, et que nous ne pourrons pas nous dérober à tout. Nous sommes connectés à ce qui se passe au-dessus du soleil, et nous sommes à ce moment-là acteurs de l'histoire. Nous faisons partie de l'histoire, nous sommes partie prenante pour changer des choses. Et ces choses commencent dans le royaume spirituel au-dessus du soleil. Les projets de Dieu dans notre cœur subsistent de génération en génération. La génération d'aujourd'hui comprend qu'elle a reçu un héritage de la génération passée et qu'elle doit transmettre cet héritage plus loin et qu'elle a une part à jouer, elle a une action à faire, elle a quelque chose à entreprendre avec responsabilité. Et c'est notre devoir, frères et sœurs, de nous engager dans notre monde qui vit sous le soleil, mais avec une perspective au-dessus du soleil. Nous devons nous engager afin que les projets de Dieu s'accomplissent. Daniel pouvait dire, mais en lisant Jérémie, je vois que 70 années doivent passer, nous sommes à Babylone, déportés. Bon, mais le plan de Dieu doit s'accomplir. Mais il va dire, lorsqu'il va découvrir ce texte, la Bible dit qu'il a commencé à prier pour que la promesse s'accomplisse. Alors d'un côté, on peut dire, mais de toute façon, c'est écrit, ça va s'accomplir. Pourquoi prier donc, puisque ça va s'accomplir? Daniel a compris qu'il est acteur de l'histoire. Il est partie prenante de ce que Dieu fait. Donc le projet de Dieu rentre dans son cœur par la foi et il se met à prier. Donc le cœur de Dieu commence à battre en lui et l'envie de prier, l'envie d'intercéder et de prendre autorité eh bien, est en train de se faire. Lui se prépare, le projet de Dieu dans son cœur, à entrer dans la nouvelle étape, dans la nouvelle saison. D'éternité en éternité, l'Éternel est Dieu. C'est pourquoi nous prions que ta volonté soit faite. Nous ne sommes pas fatalistes, je le répète encore. Nous disons que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, parce qu'une volonté se passe dans le ciel, et nous désirons que le royaume du ciel s'implante sur la terre, d'abord dans nos vies, mais sur la terre aussi. C'est pourquoi nous sommes acteurs de ce qui se passe sous le soleil, parce que nous sommes partie prenante à ce qui se passe au-dessus du soleil, dans le royaume spirituel. Dieu est en contrôle, alors pourquoi tant de mal, tant de souffrance, tant d'innocents qui souffrent, tant d'enfants qui pleurent? Pourquoi tout ce désordre, ce chaos? Pourquoi cette explosion du mal? J'aimerais vous dire ce matin que Dieu met toujours des limites au mal. Il permet et autorise certaines choses. Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Dieu ne peut pas être tenté ou inspiré par le mal. Mais la Bible dit clairement que Dieu permet, qu'il autorise pour un temps limité, mais dans les limites imposées par Dieu. Et avec son autorisation, il a un temps pour toute chose. Et le temps du mal est compté, frères et sœurs. Le temps du diable est compté. Il sait qu'il a peu de jours, nous dit l'Apocalypse. Le projet du mal est limité dans le temps. Et Dieu a cette capacité incroyable. Alors qu'il est distant du mal et qu'aucun mal ne l'habite, même pas un soupçon, une ombre de mal ne peut l'habiter, il peut changer le mal en bien. Il peut utiliser un mal pour un processus mystérieux qui s'appelle la transformation du cœur. Dieu utilise certains mots pour que notre cœur soit changé. C'est ainsi que Joseph pouvait dire, bien longtemps après toutes ces épreuves successives, que ses frères l'avaient vendu et qu'il a été mis injustement en prison, et bien d'autres choses encore. Il pouvait dire dans Genèse 45, verset 8, vous pourrez lire ça, Joseph dit à ses frères, lorsqu'il la réconciliation se fait, la rencontre se fait, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. » Incroyable. Ça, c'est quelqu'un qui vit au-dessus du soleil. En dessous du soleil, c'est les frères l'ont vendu, un mal, une injustice grave, traumatisante, a été faite à l'encontre d'un frère, Joseph. Mais dans l'école de Dieu, dans les années qui vont suivre, dans cet homme qui va rester connecté à Dieu au-dessus du soleil, dans cet homme qui va se courber sous la volonté de Dieu et ne pas fuir l'école dans laquelle il se trouve, cet homme va sortir en ayant gardé le plus précieux qui soit, sa communion avec Dieu, et il pourra dire, non pas pour faire une leçon de théologie à ses frères, mais pour dire cette vérité, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais Dieu était dans le projet. Pour que finalement mes rêves s'accomplissent. Finalement, les rêves du départ se sont ainsi accomplis. Parce que Dieu a changé le mal en bien, il va le dire. Dieu change le mal en bien. Est-ce qu'on veut le dire encore ensemble ? Dieu change le mal en bien. Parce que Dieu est souverain. Un mal peut devenir une opportunité. Un échec peut devenir une nouvelle occasion. Une souffrance peut devenir source de bénédiction et de témoignage. Une impasse peut devenir un nouveau chemin que Dieu ouvre. Un problème peut se transformer en solution pour la gloire de Dieu. Et puis, ce chant que nous avons pris avec les enfants, aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Et aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. Frères et sœurs, ce matin, prenez courage. Dieu contrôle toujours l'histoire du monde et il fait concourir toutes choses à notre bien. La pensée de l'éternité va changer ma perspective et cette éternité inscrite dans le cœur, comme dit le texte, cette pensée de l'éternité, elle est inscrite comme une intuition en tout être humain, car vous pouvez vous promener pour découvrir des peuples les plus reculés, les moins en contact avec la civilisation, vous verrez que ce sont des peuples très empreints de la dimension spirituelle, mais ils ont en eux cette notion d'éternité. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'après. La mort n'est pas le point final, tout le monde le sait, même si dans notre société occidentale, on essaye d'étouffer cela, d'écarter ces choses, et de le remplacer par une vie strictement sous le soleil, nous savons au fond de nous-mêmes, il y a peut-être quand même quelque chose. Cette absence d'éternité est impossible. On ne peut pas gommer l'absence d'éternité dans notre vie. C'est impossible parce que Dieu nous a créés comme cela, avec la notion de l'éternité. Et l'effet de la pensée d'éternité nous pousse en avant, n'est-ce pas ? Cela nous pousse en avant pour tendre les mains vers le Dieu d'éternité. Cela nous pousse en avant pour chercher qui est ce Dieu d'éternité. Et elle nous place au-dessus du matériel, au-dessus de la zone sous le soleil. Elle nous propulse vers l'autre monde où il y a justement la vie éternelle. Et cette recherche est en nous. Le jeune homme riche disait, en courant et en se jetant aux pieds de Jésus, c'était important. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il voulait l'éternité, mais il voulait en être sûr. Et Jésus nous donne justement cette merveilleuse perspective de l'éternité en disant, quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui, vous le connaissez par cœur, afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus va dire à plusieurs reprises, justement, que celui qui a communion avec lui, celui qui mange le Christ, celui qui le prend en lui comme étant le pain de vie, il est directement en contact avec l'éternité. Et il a la promesse que ce qui est en Jésus sera en lui, que la destinée de Jésus sera ma destinée, que là où il est, je serai. On est connecté, on est en liaison, on est en connexion, on est en attaché. Eh bien, cela ne peut pas être autrement que l'éternité habite en nous. Donc Dieu a mis cette pensée de l'éternité en nous pour que nous puissions partir de ce monde sous le soleil vers le monde au-dessus du soleil. C'est pourquoi notre vie est active, comme je l'ai dit. Nous ne sommes pas passifs, nous ne sommes pas fatalistes, mais nous disons, comme Jésus qui nous l'a dit expressément, que nous devons chercher ces choses. Il faut chercher une réponse. Il faut ouvrir cette Bible et chercher. Il faut venir comme le jeune homme riche, courir vers lui, se jeter à ses pieds et attendre une réponse. Recevoir et chercher encore. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses, je prendrai soin, dit le Seigneur. Le Seigneur va encore dire, travaillez non pour la nourriture qui périt sous le soleil, mais à celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. C'est à cela que nous travaillons. C'est à cela que nous œuvrons aujourd'hui. Dieu reste en contrôle du monde et chaque chose arrive en son temps. On n'a pas encore trouvé la machine à remonter le temps. Tout le monde aimerait la fabriquer. Elle n'existe que dans les films, dans certains films intéressants. On remonte le temps, mais Dieu nous donne le temps à chacun comme un cadeau, comme un don. Le temps que nous avons, chaque jour que vous vous réveillez le matin, vous dites, Seigneur, c'est encore un cadeau, c'est encore un don. Car le Seigneur connaît le nombre de nos jours. Récemment, j'ai fait un ensevelissement, et mon premier mot que j'ai dit à ce service, c'était un chiffre. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'était à peu près comme ça. J'ai commencé en disant 33 334. Et les gens se demandaient, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas venu dans une leçon de maths ici. On est venu à un culte d'ensevelissement. Eh bien, c'était le nombre de jours qu'a vécu cette personne. Le nombre de jours que nous vivons est un nombre fixe que Dieu seul connaît et que ce nombre lui appartient. C'est un nombre auquel on ne touche pas. Ça lui appartient à lui seul. Et ce nombre est un don, un cadeau, un espace-temps que Dieu nous donne. Et il me dit, je te donne ça, prends-en soin, rachète le temps, fais pour un mieux. Utilise bien ton temps, ne le gaspille pas et fais pas n'importe quoi. Car un jour, tu vas devoir en rendre compte. Et le Seigneur veut nous dire, dans le temps, non seulement il ne veut pas nous mettre une pression sur nous en nous stressant, en disant « il faut que je rachète chaque minute de mon temps ». Nous avons surtout beaucoup plus d'efficacité lorsque nous sommes dans le repos, n'est-ce pas? Lorsqu'on est stressé, lorsqu'on court après le temps, il y a plein de choses qui ne vont pas bien. Mais lorsque nous sommes à partir du repos du cœur, en train de travailler, les choses vont beaucoup mieux. D'ailleurs, dans la Genèse, il est dit que le Seigneur a fait les 6 jours de la création, il s'est reposé à la fin. Mais dans le Nouveau Testament, il est dit que le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi, mais c'est le jour du repos. Que ce soit le samedi pour les Juifs ou le dimanche pour nous. Mais le premier jour de la semaine des chrétiens, c'est le jour du repos. C'est-à-dire qu'à partir du repos du cœur, tu vas avoir l'énergie pour travailler. À partir du repos, tu es chargé de la présence de Dieu parce que tu as bien vécu ton dimanche. Tu es chargé de la louange, de la joie, tu as reçu la paix, tu as reçu des enseignements. Eh bien, à partir de là, tu vas rentrer plein feu dans la semaine. La vie en Jésus commence par le repos. Un repos du cœur qui ne devrait jamais cesser. Nous sommes faits pour vivre dans le repos du cœur, jour après jour, en étant connectés avec lui. Plusieurs textes qui nous disent que chaque chose est venue en son temps. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Le jour de Jésus, le retour de Jésus se fera en son temps. Jésus va dire, mais vous aimeriez savoir quand ça se passe, mais ce n'est pas votre affaire, c'est le Père qui fixe le temps. Pour l'instant, vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Et puis, les deux derniers versets que j'aime beaucoup, qui nous montrent à nouveau, nous, acteurs de l'histoire, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. » Lorsque le temps vous semble peu favorable, confiez-vous. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Et puis j'aime ce verset. Seigneur, je fais pour mon mieux, mais je ne contrôle pas le nombre de jours. Je ne sais pas ce qu'il y aura demain, mais je sais une chose. Le psaume 31, verset 15 nous dit, mes temps sont dans ta main. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mes temps sont dans ta main. Et l'école de Dieu, eh bien, c'est le temps. Le temps, c'est une école, un apprentissage. Un apprentissage de la patience. Tout de suite, Seigneur. La patience, tout de suite. Mais la patience prend du temps. Et il est bon de lire la Bible, frères et sœurs, et de trouver des hommes et des femmes qui ont vécu avant nous et qui ont passé par ces étapes-là. Pensons à Abraham, le nombre d'années qu'il fallut pour avoir une descendance. Pensons à Moïse, le nombre d'années qu'il fallait pour libérer Israël. Pensons à Jacob, le nombre d'années qu'il fallut pour avoir Rachel. Je ne dis pas que tout le monde doit attendre 7 ans pour se marier, ce n'est pas ça que je veux dire. David pour accéder au trône, Anne pour avoir un fils. Il y a eu toujours l'apprentissage du temps comme une école de patience. Regardez le texte. Par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi. Pour le salut. Puisque tout est en vue du salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, donc cette attente dans la foi, oui. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, c'est bien marqué, puisqu'il le faut, l'épreuve du temps, l'épreuve qui demande la patience, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, lorsque Jésus apparaîtra. Frères et sœurs, on a parfois l'impression que tout est fermé et on est impatient. Ne forcez pas les passages lorsque la patience est mise à rude épreuve. Lorsque devenu impatient, vous forcez une porte, vous faites votre propre choix, au lieu d'attendre que Dieu vous donne les choses comme un fruit mûr, eh bien vous foncez dans une porte, vous la forcez, vous l'ouvrez, et puis finalement les résultats sont bien compliqués, bien compliqués. Dans ma propre vie, j'aimerais dire, il y a eu des situations où j'aurais aimé fuir, j'aurais aimé forcer la porte, où j'aurais aimé que certaines choses pénibles cessent, et où ce mot du Seigneur résonnait dans mon cœur et à mes oreilles intérieures. Walter, patiente, c'est tout. Mais un mot qui s'est imposé à moi et qui m'a porté jusqu'au moment où Dieu lui-même à dénouer les choses en son temps. Et si nous voulons prendre les choses en main nous-mêmes, eh bien, nous nous rendons compte que ça complique toujours quelque part. Ça devient compliqué, ça crée des tensions par-ci, par-là, etc. L'apprentissage de la patience ne peut se faire que dans le temps. Regardez encore le verset suivant. Jacques 5, 7 à 11. « Soyez patients, mes frères !» Soyez patients, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et puis Jacques va prendre des images de la nature très simples à comprendre. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Tout ouvrier de la terre sait qu'il faut être patient. Mais nous qui sommes des citadins, pour la plupart, nous avons perdu cette notion. Et nous voulons aller vite, les choses vont vite, partout ça va vite. Mais le temps de Dieu reste le même pour tous. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. L'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres en étant pressés, en voulant faire les choses vous-même, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et puis, il prendra l'exemple de Job aussi, l'exemple de la patience. Nous disons bienheureux ceux qui sont patients. Est-ce que vous faites partie de ces bienheureux ce matin? Et peut-être qu'on pourra terminer notre culte tout à l'heure en disant, Seigneur, m'étançons dans ta main. Merci de m'apprendre la patience. Il faut que je l'apprenne. Ma chair n'a pas envie de l'apprendre. J'ai pas envie. J'aimerais que ça aille plus vite. Et j'aimerais surtout pas souffrir. Mais Seigneur, il y a eu Jacob, Abraham, Moïse, Joseph, David, Anne et tant d'autres qui m'apprennent que tu as transformé leur vie. Tu as modelé leur vie. Tu as façonné leur vie au travers de l'école du temps. Je suis avec toi tous les jours. Je sais par où tu passes. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie accompli l'œuvre que j'ai prévu de faire. Et l'œuvre de Dieu, en son temps, réussira entre ses mains. Gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Abraham, en tout cas, eh bien, il était connecté au-dessus du soleil. Et il est dit qu'il a, il a vu sa véritable patrie. Il l'a vu et salué de loin. Et dans la foi, il est mort. Dans la foi, il est mort sans avoir vu les choses se passer sous le soleil, mais il les a saluées au-dessus du soleil. Il les a saluées dans le monde de la foi. Et il a ainsi dit, en aspirant à cette patrie meilleure, nous dit le verset 16, que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Cela veut dire que dans la foi, nous ne voyons pas toujours tout se réaliser ici-bas. Mais nous pouvons quitter ce monde à un moment donné, en mourant. Nous quittons ce monde en emportant avec nous l'espérance. Car ce qui demeure dans l'au-delà, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Nous mourons dans l'espérance que même si nous ne voyons pas, ces choses vont quand même s'accomplir. Car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et il peut le faire pendant que je suis vivant, mais il peut aussi le faire après ma mort. Je ne suis pas maître du temps, c'est lui le maître du temps. Eh bien, je fais en mon temps et dans ma destinée ce que Dieu a prévu que je fasse. Ce que j'ai à cœur de dire à plusieurs ici ce matin, c'est que vous êtes dans une saison. Vous êtes dans une saison dans laquelle Dieu vous apprend des choses. Et vous n'aimez pas cette saison, vous n'aimez pas. Restez dans la saison dans laquelle vous êtes. Vous aimeriez avancer. Vous aimeriez que l'hiver passe pour que le printemps arrive. Printemps, été, automne et hiver. Elles sont toutes nécessaires pour la bonne marche, pour le bon équilibre. Et Dieu veut nous dire ce matin, à plusieurs en tout cas, eh bien, viendra le temps où tu vas passer dans une autre saison. Il y aura une autre saison. Progresse, grandit vers une autre saison. Dieu fait toutes choses bien en son temps. Et ce que tu vis maintenant prépare la saison suivante. Ce que tu vis maintenant prépare la saison suivante.